d'experts, une émission avec Benjamin Darmonie, président du cabinet Maurice Burgère sur Radio Immo.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Immo dans Avis d'experts, une émission que j'ai le plaisir d'animer avec Benjamin Darmonie. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Président du cabinet Maurice Burgère, comment allez-vous ?
Très bien.
Pour cette rentrée, chaudement.
Très bien, chaudement évidemment, mais très heureux aussi d'être rentré et de pouvoir à nouveau faire ce qu'on aime, notre métier. Et donc, on a recommencé depuis une dizaine de jours.
Alors justement, on va faire le point sur l'actualité du secteur, du marché immobilier. On va parler de cette crise du logement et non de l'immobilier, comme certains le disent. Et pour cela, nous avons un invité aujourd'hui, Benjamin.
Et oui, on a le plaisir de recevoir Thierry Herman, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui et pour nous conter son expérience dans un marché difficile et compliqué et de pouvoir nous apporter des solutions ou en tout cas son analyse sur le marché.
Son expertise. Bonjour Thierry Herman, vous êtes PDG de Herman Frères et Fils Immeubles.
Bon, c'est un très beau titre.
On est ravis de vous recevoir en tout cas.
Je suis ravi d'être là, merci.
Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, peut-être avec une analyse globale du marché immobilier, peut-être les ventes, les transactions et puis dans un second temps la location.
Alors, d'émission en émission, Bérénice, j'ai l'impression de me répéter, on a alarmé le gouvernement sur la situation, on l'a informé, on l'a nourri de chiffres. Aujourd'hui, on est forcé de constater que effectivement, le marché de la transaction est à l'arrêt. À l'arrêt parce qu'il y a un écart qui grandit de jour en jour entre l'offre et la demande. Et leurs prétentions, on est effectivement sur de moins en moins d'obtention de crédit. Je crois que vous avez des chiffres à ce sujet.
Oui, alors au mois de juillet, c'est vrai que c'est selon la Banque de France, hein, c'est moins 45% pour le mois de juillet 2023 par rapport au mois de juillet 2022.
Alors est-ce que ça va suffire pour prendre conscience à quel point cette crise risque de rendre le marché impraticable. On a un marché du locatif qui explose.
Ouais.
On n'arrive pas à répondre à la demande de tous les locataires qui viennent nous supplier de louer un appartement en leur disant mais il faut prendre mon dossier. C'est même plus une question de dossier, c'est une question d'offre. On a aujourd'hui pour une annonce plus de 200 demandes.
Oui.
Et pas sur des appartements à un loyer modéré. On est sur des appartements avec des loyers au-dessus de 1500 euros.
Donc alors c'est apparemment, il y aurait 18% de biens en moins sur le marché de la location. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi, Thierry, Benjamin ?
Alors, je rejoins tout à fait ce que dit Benjamin. Alors, pour vous donner des exemples, dont on a un patrimoine important en matière de logement, habituellement, alors on est présent dans des villes comme Paris ou Strasbourg ou Nice, qui sont des villes assez étudiantes,
oui.
Et dont il y a un turnover très important. Et chaque année, on avait historiquement jusqu'à 25-30% de gens qui quittaient, de nouveaux arrivants. Ben aujourd'hui, comme les gens n'ont pas d'autres alternatives, donc ils ne partent plus, et aujourd'hui, on a un turnover à moins de 10%.
D'accord.
La construction à l'arrêt, les acheteurs, ceux qui souhaitent acheter, ben ils ne peuvent plus. Donc, en fait, on est à un moment du marché catastrophique. Et l'exemple que je donnais à Benjamin... En arrivant, on a mis en location il y a quelques jours un appartement de 2-3 pièces à Neuilly, alors refait à neuf dans un très bon quartier, mais à 1800 euros par mois, qui n'est pas une affaire, hein, c'est le loyer de marché. On a eu 30 demandes au bout de 2 heures, et des bonnes demandes, des demandes qualifiées. Donc,
des gens solvables en tout cas.
Les gens, on reçoit des dossiers, des bons dossiers, on ne sait même plus comment juger. Encore, on essaye de faire, avec Benjamin également, de faire bien notre métier, d'essayer de discriminer personne.
Mmh.
Et quand je dis discriminer, c'est qu'il y a des gens qui arrivent avec des bons dossiers, comme ils sont indépendants et pas salariés,
mais ça
veut dire qu'on jette leurs dossiers.
Or, c'est plus impacté, oui, les autres.
Ils ont tout à fait les moyens d'être dans ces appartements. Donc on est dans un problème. Et je peux le dire aussi, on a alerté des collectivités publiques avec qui on a l'habitude de travailler. On n'est pas spécialement écouté, il n'y a pas de solution miracle,
ouais.
Mais la seule solution, elle est assez simple, c'est qu'il faudrait construire davantage. Et évidemment, plus de logements sociaux intermédiaires, mais il faut construire davantage. Il n'y a pas d'autre solution, en fait.
Mmh. Alors, c'est vrai que, bon, une des raisons pour lesquelles les gens achètent moins, c'est évidemment les taux qui remontent, et ça continue. Hein. Alors, j'ai quelques chiffres. Cet été, en juillet, on était à 3,17% de taux d'emprunt à l'habitat, donc hors assurance et frais, hein, je précise. On est passé à 3,32% en août. Et puis là, eh bien, c'est vrai que la BCE a relevé encore le taux d'usure, hein, le fameux taux plafond à partir duquel les banques, au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter. Et donc le taux d'usure est passé à 5,56 au 1er septembre. Donc forcément, on s'attend à des taux autour de 5%. C'est ce que les experts disent à la fin de l'année. Forcément, bah, des personnes qui ont soit acheté un taux de autour de 1% qui ont un bien ne veulent pas revendre pour reprendre un autre taux plus cher. Forcément, ça se comprend. Et puis les banques sont aussi plus sélectives. Donc forcément, bah, les primo-accédants sont impactés, c'est ce que vous constatez aussi.
Ah oui, ça c'est très clair. Après, il y a un immobilier bashing généralisé, vous lisez n'importe quel journal, alors certains qui sont bien documentés, certains qui disent n'importe quoi, qui veulent vulgariser de l'information, mais qui font de l'immobilier bashing, donc ça veut dire, en plus, la baisse confiance généralisée, on lit tout et n'importe quoi, bon, il faudrait être fou pour se lancer dans un projet immobilier, d'autant plus que les banques ne sont pas très prêteuses.
Après, bah certaines ne prêtent plus du tout. Hein.
Certaines ne prêtent plus, et des bons profils. C'est-à-dire que ouais. Nous, ce qu'on voit, et avec l'expérience qu'on a, on a des gens qui ont des bons salaires, le couple, les deux membres du couple travaillent et ont des revenus, et malgré ça, la banque prête ou prête avec des conditions tellement peu intéressantes, avec des apports qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont pas envie de mettre, que finalement, ils renoncent. Puis beaucoup de gens se disent, si c'est pas le moment, mais comme vous dites aussi, en même temps, beaucoup moins de gens veulent vendre. Et de manière naturelle, normalement, il y a de la construction, donc il y a des opportunités de construire. Alors on a, en plus, un gouvernement qui a enlevé le Pinel, donc dans un moment qui me semble pas spécialement opportun.
Enfin, il y a le Pinel plus, mais bon, enfin, c'est comme s'il n'y avait plus de Pinel.
C'est compliqué. Alors, c'est difficile de faire du PTZ. C'est difficile de prêter, de faire le PTZ et de prêter à zéro quand les taux ne sont pas à zéro. Donc ça, on peut pas, comme pas de leur faute. Mais néanmoins, il n'y a plus d'incitation à construire. Il n'y a aucune incitation au maire à construire. L'incitation du maire bâtisseur, il n'y en a pas. Et donc, pas de nouvelles constructions, les gens iraient chez eux, mais les prix, ok, ils baissent, il y a beaucoup, beaucoup moins de transactions. Ça c'est un vrai point, et ça met en difficulté toute notre filière immobilière. Mais ce n'est pas du tout la catastrophe qu'on vit dans l'immobilier de bureau, dans les zones type la Défense, ou là, c'est la Bérésina. C'est-à-dire que là, on est à moins 30, moins 40, moins 50%. Et ça, c'est beaucoup plus violent qu'encore dans le logement.
Ça, comment vous l'expliquez, juste la crise du tertiaire?
Alors moi, comment je l'explique? Alors une fois de plus, il faut dissocier beaucoup de marchés. Le marché de Paris intramuros marche plutôt bien, à la location ou à la vente. Par contre, le marché qui est dédié aux investisseurs institutionnels, genre je parle de la Défense, mais ça peut être des quartiers de Saint-Ouen, de Saint-Denis ou dans des quartiers de bureaux de province, c'est un marché qui est adressé aux investisseurs institutionnels. Or, les investisseurs institutionnels, ils regardent leur possibilité de placer leurs sous. Donc quand les taux ont énormément monté, ils ont eu des opportunités de placer dans d'autres produits, des produits financiers qui leur apportaient 5-6% de manière quasiment sûre. Bon, maintenant, pourquoi investir dans l'immobilier à 4% à la Défense, avec des problèmes énergétiques qui arrivent, beaucoup moins de gens au bureau à cause du télétravail, pourquoi tu veux investir à 4% quand tu peux avoir du 5 ou du 6 dans autre chose? Donc les institutionnels, ils sont plus là, ils ne peuvent plus, ils ont des problèmes avec leur placement dans les SCP, donc eux, certains ont accepté des pertes et où il y a des problématiques de refinancement. Et là, la baisse, elle est mondiale, elle est violente.
Et finalement, Thierry, ils sortent assez naturellement du marché. Tout ça était logique et prévisible. Parce que quand on vous offre 5 ou 6% sans risque, pourquoi vous iriez dans l'immobilier? Pourquoi vous iriez investir dans le bureau? C'est ce que vous disiez il y a une minute. Ça paraît tellement évident. Et personne n'a prévu.
Après, il y a aussi l'effet télétravail. C'est vrai non, on en parle depuis le Covid, moins. Les bureaux se vident aussi à cause de ça.
On y revient. Le télétravail, ça a été une mode Covid. On revient très vite aujourd'hui. Vous voyez les grosses entreprises qui reviennent, qui rapatrient tous leurs collaborateurs. La génération Y, oui, elle existe, mais la génération Y, elle prend aussi du recul vis-à-vis de tout ça. Et le lien social, pour vivre, faut toujours avoir du lien social. Et les collaborateurs ont besoin de voir le chef d'entreprise, ont besoin de voir leurs collègues toute la journée. Mais
Alors moi, je rejoins 100% de ce que tu dis. Après, il y a quand même des façons de travailler qui ont un peu changé. Les gens reviennent au bureau, mais peut-être il y a un jour par semaine, ça peut être le vendredi ou le lundi, où ils vont s'aménager pour rester chez eux. Et du coup, les entreprises en ont profité pour revoir leur manière de travailler. Donc, ça veut dire, au lieu d'être à la Défense sur 5000 m², ils se sont dit, on va être sur 1500 m² à Paris, avec des modes collaboratifs différents.
Et puis, près des gares,
Près des gares, et ça, c'est bien fait, avec des lieux d'échange, avec des bureaux qui sont en général. Ils économisent pas tellement dans le coût immobilier, parce qu'ils vont dans des quartiers beaucoup plus centraux, qui coûtent cher, mais ils font des espaces qui sont plus intelligents, où justement, le lien social est en permanence là. Ils travaillent un peu différemment. Alors, dans d'autres pays, pour le coup, genre les États-Unis, je crois qu'ils sont encore en plein dans le travail, mais en France, c'est vrai que ça revient beaucoup. Mais les entreprises, elles travaillent quand même différemment. Mais la bonne nouvelle pour le logement, c'est comme les gens restent, on va dire, un jour de plus chez eux, bah, ils disent, il faut que je sois bien chez moi, je vais pas trop... Donc, en fait, le Français, à un moment donné ou à un autre, va vouloir investir dans le logement, va vouloir être bien chez lui. Et donc, normalement, à un moment donné, si les crédits rebaissent, est-ce que c'est dans 1, 2, 3 ans, c'est difficile à dire, je pense qu'on peut être serein sur le moyen terme, sur que les gens vont être bien chez eux. D'ailleurs, quand les taux d'intérêt ont monté, je pense que les banques centrales n'avaient pas du tout imaginé que le marché du logement allait se bloquer et les prix baisser, mais pas tant que ça. Tandis que sur l'immobilier de bureau, c'est écroulé.
Ouais. Bah, globalement, sur toute la France, les prix n'ont pas baissé. Hein. Quand on fait une moyenne globale, je crois que la baisse est infime, c'est 0,4%. Donc, c'est quasiment rien. En revanche, bon, c'est vrai que ça a baissé dans certaines villes, là où ça avait carrément explosé. Hein. La ville où ça a le plus baissé, je crois que c'est Bordeaux, avec une moyenne de moins 9%, mais ça va jusqu'à moins 13% sur certains biens, mais on partait d'extrêmement haut. Après, c'est vrai que, vous l'avez dit, la Banque centrale pensait, en remontant les taux, enfin la BCE, justement, faire baisser l'immobilier. Et alors, comment ça se fait pour vous, ce sont les vendeurs qui refusent de baisser leur prix?
Alors, moi je vous donne un exemple en tant qu'opérateur. Donc en tant qu'opérateur, un de notre métier principal, c'est on achète des immeubles bon, dans Paris, on les rénove, on fait des appartements de meilleure qualité. Aujourd'hui, le focus, c'est de les rendre énergétiquement à peu près intelligents, de baisser les consommations, puis on les remet sur le marché par appartement, on les a mis en copropriété. Et on fait ça sur plusieurs villes en France. Et à ce titre d'exemple, je peux vous parler qu'il y a des quartiers, par exemple le 15e arrondissement, on a une opération, franchement, des 2-3 pièces, on a dû baisser les prix. Hein. Les prix d'il y a un an, on peut se dire, les chiffres, les statistiques, j'ai dû baisser les prix d'au moins 10% pour que les gens veuillent l'acheter, et on a réussi à vendre. J'ai eu des opérations dans le 11e arrondissement, hein, à peu près. Mais on doit être très agile, toutes demandes ne sont pas égales par ailleurs. Mais en baissant les prix, on y est arrivé, c'était un quartier attrayant, il y avait de la demande. Dans le 11e arrondissement, j'avais des opérations, un immeuble où franchement les appartements étaient de moins grande qualité parce que c'était assez sombre. C'était correct, mais là, je veux dire, c'était même plus une histoire de prix. C'est que les gens qui étaient capables d'acheter voulaient quelque chose de lumineux, en étage. Mmh. Donc on a réussi à vendre certains lots, et certains lots, on n'est pas réussi à les vendre. J'ai fait une opération dans le 19e arrondissement et là, on s'était trompé parce qu'on avait entamé des travaux peut-être il y a 12 ou 18 mois et on a moins réfléchi aux problématiques des PE, de consommation énergétique. On n'était pas encore là-dedans, on y est totalement maintenant. Et là, des appartements dans un quartier dit plus difficile et avec une classification énergétique moyenne, il y a 0,0 demande. Donc ça, c'est sur une ville comme
Paris. Donc les acheteurs sont plus exigeants.
Plus exigeants et chaque rue, chaque immeuble, chaque ville a des situations vraiment pas comparables. Mais globalement, si on fait une moyenne, c'est difficile de dire la vraie baisse des prix parce que comme on se disait en venant, il y a beaucoup, beaucoup moins de transactions, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas acté, qui ont préféré attendre, reculer. Après, le marché immobilier, on le sait, il y a des décès, il y a des divorces, il y a des successions. Oui. Donc à un moment donné, ce sera intéressant d'avoir les chiffres dans un an.
Oui.
Mais ce retour d'expérience est extrêmement précieux. On se rend compte que l'enjeu aujourd'hui de la valorisation d'un bien ne s'arrête pas uniquement là. La rénovation énergétique est extrêmement importante. On n'est plus uniquement sur le beau. On est sur l'appartement qui respectera...
Et qui consomme moins, surtout.
Et qui consommera moins, et qui respectera les normes énergétiques. Et tout ça, pourquoi ? Pour avoir le plus de chances d'arriver à les vendre, avec le moins de baisse possible. Donc c'est ça, c'est la situation du marché actuel.
Ouais.
Et c'est vrai que nous, vous prenez des appartements qu'on met en vente au sein de l'agence en lettre G, mais personne n'en veut. Parce que lettre F ou G, le banquier ne prête plus. s'il n'a pas la garantie que les travaux seront effectués. Donc, s'il n'y a pas un crédit travaux en plus de l'emprunt, il ne prêtera pas. Et les acquéreurs sont aujourd'hui extrêmement sceptiques face à ces appartements. Et donc, ne viennent même plus les visiter.
Donc, ils restent sur le carreau.
Ils restent dans le portefeuille. Et c'est ce que je dis à mes collaborateurs tous les jours. Je dis, on ne fait pas ce métier pour garder des biens en portefeuille. Il faut contacter les vendeurs, leur expliquer la situation.
Et la solution, ce serait quoi ? Faire baisser le prix ?
Alors, il y a beaucoup de solutions. La première solution, c'est faire effectivement baisser le prix en expliquant aux vendeurs que soit il accepte de baisser le prix, soit on ne vendra pas. La deuxième solution, c'est de faire des travaux. On a aussi des vendeurs qui comprennent, en fait, qui font un peu le métier de bien moins bonne qualité de Thierry, c'est-à-dire qu'ils vont faire les travaux pour vendre leur appartement. Et donc, effectivement, ils vont s'appuyer sur nous. Et troisième chose, ils remettent en location. Mais qui dit remettre en location, dit faire les travaux aussi.
Oui. Ou
donc
sinon,
on leur offre toutes les solutions.
Loi.
On leur offre toutes les solutions pour sortir, effectivement, de cette situation.
Et justement,
c'est notre rôle.
Est-ce qu'il y a des propriétaires bailleurs qui continuent à louer malgré les interdictions ? Est-ce que vous en voyez, vous ?
Évidemment que oui, tous les jours. C'est ce que, dans mon jargon, il y a eux et les marchands de sommeil. Vous savez que c'est un peu mon cheval de bataille, les marchands de sommeil. Mmh. Je me suis battu, j'ai dit, répété, allez dans les derniers étages des immeubles haussmanniens, que vous soyez dans le 16e, dans le 8e, dans le 17e. Vous avez un nombre de marchands de sommeil très, très important. Parce que dans les derniers étages, c'est souvent des chambres de service. Et ces chambres de service, puis vous pouvez les identifier très simplement. Regardez les toitures, regardez les Velux. Tous les Velux qui sont pas changés, vous avez beaucoup de chance que ce soit des marchands de sommeil. On va me dire, oui, mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais c'est une réalité. On avait fait un test avec l'UDIS. On était allé dans 3 immeubles. Et il y avait effectivement beaucoup de chambres de service. Et systématiquement, on en avait 3 ou 4 qui étaient insalubres. Et ça n'empêchait pas qu'il y avait 4 habitants dans cette chambre. Donc oui, très clairement, les gens enfreignent la loi. Vous voulez d'autres personnes qui enfreignent la loi ? Le bail mobilité. Le bail mobilité, de nombreuses entreprises louent sans respecter l'encadrement des loyers. J'arrête pas de répéter et de dire que le bail mobilité est un bail qui est conforme au niveau des lois de 89 et lois de 87. Ils doivent respecter l'encadrement. C'est pas parce que c'est un bail uniquement de 10 mois qu'on ne doit pas respecter l'encadrement. Et ne parlons pas des JO. J'ai fait une communication sur les réseaux sociaux pour demander à la maire de Paris et à Yann Brossat, son responsable du logement, de savoir est-ce que c'est vrai ou pas qu'ils vont être indulgents. Ils auraient dit qu'ils seraient indulgents pendant les JO pour la location de tous les appartements en Airbnb à Paris. Ça paraît fou. Ça paraît fou. On a le droit d'enfreindre la loi pour les JO.
Donc indulgents par rapport à quoi ? Par rapport à la rénovation
Non, par rapport à la sous-location, de
d'accord.
Tous les biens, la location de sa résidence principale, la sous-location de l'appartement qu'on louerait à un administrateur de biens pendant la période des JO. Il faut bien comprendre qu'on attend 12 millions de personnes.
Bah, c'est ça.
Et qu'on n'a pas...
Il faut les loger.
On n'a pas les logements disponibles.
Oui. Mmh.
Alors, ceci dit, si on avait zéro Airbnb, bon, parce que quand on parle avec la mairie, moi, je comprends le problème à long terme, même à moyen terme du Airbnb, de comment il faut le réguler pour permettre aux Parisiens d'avoir des logements à des prix décents. Mais la mairie de Paris, s'il n'avait pas... Alors, je ne parle pas de ne pas respecter la loi, mais si on n'avait pas de Airbnb, là, pendant la période des JO, comment on ferait, quoi ? En fait, il y a tellement peu de chambres d'hôtel par rapport à la demande. Après, bon, comme ce n'est pas structurel, c'est difficile de dire, mais d'un autre côté, c'est assez fou, c'est qu'il faut être pour une régulation de bonne qualité des Airbnb et des bonnes mobilités. D'un autre côté, pour les JO, heureusement que tu en as, quoi.
Alors, oui, vous avez raison. Le seul problème de fond, c'est qu'en donnant un passe-droit pour 3 semaines à des locataires qui vont sous-louer leur appartement, je ne vous parle pas de problèmes qu'on aura qui seront insolubles, c'est-à-dire une fuite dans un appartement, il y a un locataire Airbnb, comment je fais pour le contacter ? Comment je fais pour régler le problème ? Ça va être des problèmes que les professionnels vont devoir gérer. Mais ça, on peut pas laisser faire ça. Ça va être une zone, ça va être des zones de non-droit. Et très clairement, oui, aujourd'hui, Airbnb a fait sa place. Et au niveau de la réglementation, on est commercial, on fait du Airbnb. Oui, effectivement. Et bien maintenant, c'est rentré dans le paysage de l'immobilier d'une manière générale. Mais là, pendant les JO, nous, on est extrêmement inquiet. Comment on va gérer ?
Il
n'y
a pas que les choses, il y a la Coupe du Monde de rugby aussi qui commence ce soir. C'est vrai que bah, là aussi, hein, les prix ont explosé dans les 9 villes, les prix des locations saisonnières qui accueillent. Et c'est vrai que certains abusent. Hein, à Marseille, je crois que c'est plus... c'est à Saint-Etienne, la ville où il y a le plus d'augmentation, c'est 116%. En revanche, loueurs abusent des prix. Je crois que oui, c'est à Saint-Etienne que quelqu'un a loué la nuit 1944 €. On a vu sur un salon, ça c'est pour moi c'est un braquage. Est-ce que vous avez, vous connaissez des gens, vous, vos clients qui vont justement sous-louer ou louer leur appartement?
Ceux qui vont louer à quadruple du prix, ils vont pas me le dire. Mais non, mais évidemment, on est associé avec des gens qui sont dans le domaine de l'hôtellerie et il y aura certains qui vont juste augmenter les prix de manière importante. Tout le monde va pas faire n'importe quoi, mais il y a effectivement beaucoup d'abus. Après, quand même pas mal pour certains d'avoir un complément dans une période difficile.
Oui.
Celui qui partirait en vacances et qui laisserait son appartement à un loyer un peu plus fort, s'il ne fait pas n'importe quoi, c'est plutôt bien dans une période difficile. Mais j'attire votre attention sur la rénovation énergétique que dans certains cas, et c'est là le drame, c'est que des fois ça coûte tellement cher pour passer de F à quelque chose de plus correct, parce que des fois on est dans des copropriétés où malheureusement on ne peut pas forcer à refaire la toiture, on ne peut pas renforcer un certain nombre d'éléments structurels. Donc, si vous voulez investir pour arriver à avoir quelque chose de correct, les gens, ils font un calcul de retour sur investissement. Donc, ils disent, il faudrait que je double le loyer. L'encadrement ne le permet pas. Alors, je ne dis pas que l'encadrement, ce n'est pas bien. Mais je dis qu'à un moment donné, le calcul pour certains, malheureusement, quand on est professionnel et qu'on doit expliquer qu'on est administrateur de biens, ça ne doit pas toujours être facile d'expliquer aux gens qu'il faut investir un certain montant et qu'on ne peut pas forcément beaucoup augmenter le loyer. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut absolument augmenter le loyer. Mais peut-être que c'est des incitations fiscales, peut-être que c'est plus de pédagogie, puisque quand on est accompagné par un professionnel comme la société de Benjamin, il arrive à expliquer à ses clients qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec des prestataires de services que vous connaissez, sérieux. Il y a des fois, moi, des gens qui viennent me voir en me disant, en montrant justement des devis pour faire les travaux complètement ridicules, beaucoup trop chers, et les gens sont un peu perdus, et il y a de l'abus, et là, il y a beaucoup, beaucoup d'abus de gens qui comprennent rien et qui veulent profiter de cette situation pour essayer de vendre des travaux énergétiques plus chers que ce que ça vaut vraiment.
Ouais. C'est vrai que les propriétaires... Les propriétaires bailleurs, les particuliers, sont un peu les oubliés, les mal-aimés du gouvernement. Alors justement, on a un nouveau ministre du Logement, Patrice Vergriete, qui a été nommé. Une attente par rapport à un petit mot par rapport à ce nouveau ministre?
Il est extrêmement disponible.
Plus que son prédécesseur?
En tout cas, lui, il l'est.
Très bien. Plutôt content.
On est très content. Il sera présent dans notre cercle des managers de l'immobilier
la semaine prochaine, le
12 septembre. Il vient au congrès de l'UNIS à Marseille en fin de semaine prochaine. Le 13 et le 14.
13 et 14
septembre.
À Marseille.
On
y sera d'ailleurs, nous aussi.
Évidemment.
Ouais, évidemment.
Comment voudriez-vous que ce congrès existe sans vous, Bérénice? Mais non, on est extrêmement, pour l'instant, satisfait de pouvoir voir qu'on est, écouté. Mais vous connaissez ma règle, c'est d'être entendu.
Oui. Donc ça, c'est une autre histoire.
Et ça, pour le moment, on n'a pas encore de recul.
L'UNIS a prévu de le rencontrer, j'imagine.
Comme il vient au congrès, oui.
À ce moment-là,
on va pouvoir échanger.
Un petit mot peut-être sur le nouveau ministre, Thierry.
Moi, le nouveau ministre, je n'ai pas l'honneur de le connaître comme M. Darmouni. Néanmoins, s'il y a une seule chose que je peux vous dire, et on peut retourner dans tous les sens, le seul moyen de mieux loger les gens ou d'avoir des prix plus adaptés, c'est quand même extrêmement simple comme constat, comment on y arrive, je ne sais pas, c'est construire davantage. Si vous voulez faire baisser les prix, si vous voulez loger géant, il va falloir réhabiliter et construire plus et donner, à mon avis, des incitations aux maires qui ont des terrains où on peut construire. L'équation de penser qu'un jour les gens iront dans des villes où il y a de la surface, des villes moyennes qui ne sont plus extrêmement attrayantes parce qu'il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas d'emploi, c'est se tromper. Tout le monde veut être aujourd'hui proche de centres, de villes où il y a des universités, où il y a un certain nombre d'emplois, et tout le monde veut se concentrer plus ou moins au même endroit. Et si vous construisez là, vous réglerez en partie le problème, parce qu'on peut baisser les prix et loger plus de personnes. Après, une note une note quand même positive. On voit un changement de façon de se loger. Et par exemple, le co-living, par exemple, hein, si c'est bien fait, ça permet à deux ou trois d'être dans un logement. Et c'est très demandé par les jeunes, c'est très apprécié. Et ça, ça va dans le bon sens. Beaucoup y investissent. Et je pense que, bon, il y a des changements d'usage, des changements de faire, des façons de penser. On n'a pas encore tout vu. Effectivement, la génération Y, les jeunes ont une façon de penser le logement différente et dont, à mon avis, peut-être que des solutions arriveront par là si le ministre est à l'écoute.
Et c'est surtout aussi le vivre ensemble. Ils vivent ensemble vraiment différemment de il y a quelques années. Les jeunes acceptent de vivre ensemble. Mmh. Et nous, co-living, colocation, on en fait de plus en plus aujourd'hui.
Et oui.
Thierry, vous avez raison. Donc, c'est très important. Mais maintenant, dans la promotion, dans la construction, il y a trop de réglementations. Il faut libéraliser. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, sinon on ne trouvera pas de solution. Comme Thierry, vous le dites, on a besoin de logements. On a besoin de logements en nombre. Alors, on nous dit non, l'artificialisation des sols, il ne faut pas. Mais il y a un moment... il faut bien faire vivre les Français. Il faut bien les faire vivre quelque part. Donc, il y a un moment,
il faut construire.
Il faut réagir, il faut construire. Mm.
Je crois surtout... Donc j'ai eu un entretien il y a 15 jours avec un maire d'une ville assez importante sur un projet immobilier spécifique. Et ce que je pense, je ne sais pas exactement comment l'appréhender, mais il n'y a pas de priorité entre l'environnement et le mal-logement. Okay, c'est deux problématiques différentes, mais extrêmement importantes. Et si aujourd'hui, et on l'a vu, on a fait des opérations de réhabilitation très lourdes dans une ville, même à Paris, où on a su recycler des immeubles, on a su décarboner une démarche immobilière. Et sur le neuf, je ne raconte même pas comment on peut faire encore mieux dans le principe d'arriver à faire des immeubles qui consomment beaucoup moins, dont depuis le début jusqu'à la fin, il y a des cycles plus courts et on peut décarboner une opération immobilière aujourd'hui, neuve. Donc, faire des rustines sur des immeubles anciens, certains que vous pourriez gérer dans votre cabinet ou moi dans nos immeubles, on fait au mieux, on met des rustines, on améliore les choses, il n'y a pas de problème. On commence à savoir faire, mais on ne fera jamais aussi bien que faire une nouvelle opération. Donc en fait, il faut que les maires et que les pouvoirs publics se disent, mais c'est une opportunité. Aujourd'hui, si on a des terrains, on va faire des immeubles qui seront des exemples. Donc, il ne faut pas avoir peur de construire. Construction n'est égale pas pollution.
Mmh. Ben je crois que c'était le mot de la fin. Vive la construction, voilà. Merci beaucoup Benjamin Darmouni, merci Thierry Herrmann pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Avis d'expert sur Radio Immo.
Avis d'expert, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.immo et sur toutes les plateformes de streaming.